Chali m'était conté. Bonjour à toutes,
bonjour
à tous. Lors de notre dernière émission, nous nous étions interrompus au moment où le comte de Clermont rencontre sa, xième, on ne les a pas comptés, la xième maîtresse, celle qu'on appelle la Leduc, à qui, très rapidement, il va faire un enfant d'une fille qui est morte à l'âge de 3 ou 4 ans. Et cet incident redoubla la tendresse du comte pour sa maîtresse. On peut penser qu'il y a peut-être là une ardeur amoureuse. En tous les cas, cette tendresse devint absolue, comme la maîtresse elle-même. Et c'est elle qui va maintenant diriger la maison du comte de Clermont. Elle faisait ce qu'elle voulait. Les personnes même de qualité qui composent la cour du prince, finalement, c'était accoutumé à se plier à tous ses caprices. Toutes les déférences qu'on aurait pu avoir normalement pour une honnête femme lui étaient distribuées. Depuis près de 12 ans, on va aller assez vite, cette union se soutient avec tous les agréments de la nouveauté. Et il n'y a eu guère qu'une légère altération de leurs amours occasionnée par la demoiselle Deschamps. Vous voyez, on rapporte encore une danseuse de l'opéra. Avec le comte s'amusa, dit-on, à l'armée pendant la campagne de 1746. Mais ce ne fut qu'un feu de paille. À son retour à Paris, le comte de Clermont est rentré sous les lois de la demoiselle Leduc. Elle est propriétaire de la maison qu'elle occupe rue de Richelieu. Elle la tient des bienfaits du prince. Elle n'hésite pas à s'exhiber à la promenade du bois de Boulogne dans une calèche toute neuve que le prince avait fait faire. Elle était bleue et argent, et en dedans, de velours bleu brodé en argent, le tout attelé de 6 petits chevaux, pas plus forts que des ânes. Cela était de la dernière magnificence. Alors, on peut s'étonner, évidemment, qu'une courtisane traverse ces grandes promenades au bois de Boulogne, qui n'avait pas la réputation qu'il a en partie maintenant. C'était vraiment la promenade des aristocrates. Et donc, on peut s'étonner que cette demoiselle Leduc, pleine de diamants, puisse avoir été vue par tout Paris. Alors, cela va blesser l'amour-propre des femmes de l'aristocratie. Il va même jusqu'à scandaliser tout le public, je dirais de haut en bas ou de bas en haut de la société. Il nous reste quelque chose de tout à fait amusant, un petit poème écrit, tout simplement, par le roi, son cousin, parce que le roi estime que peut-être là, il dépasse un petit peu la mesure. Voici ce petit poème.
Un char à tacata, mon cousin, ce n'est pas son allure. Le coche à pataclin, mon cousin, est un habit de bure. Ah, voilà l'allure. L'allure, mon cousin. Ah, voilà son allure.
Alors, on s'imagine bien que cette chanson a été reprise par la suite, dans les tripots parisiens. Petite précision, donc, le coche à pataclin. Pataclin, c'est tout simplement le nom de la dame qui accueillait les prostituées dans une espèce d'hospice par la suite. Donc, en gros, il disait que le carrosse de la Leduc, c'était un carrosse de prostituée. Et il le reproche, lui qui devrait avoir l'habit de bure, c'est-à-dire l'habit de moine, de donner ainsi une allure tout à fait particulière, évidemment, à celle qui mène sa vie. Un petit passage aussi concernant ces actrices de l'opéra. J'étais très surpris de voir que ces actrices avaient un règlement. Ah, vous allez me dire pour danser, pour... Non. Elle devait suivre un règlement. Le règlement, on appelait ça aussi le code lyrique. Et par son article 12, ils accordaient aux actrices le droit d'avoir un ou plusieurs amants selon leurs besoins. Alors, il y avait quelques précisions par la suite. Autrement dit, c'était très officiel. Des rapports secrets des inspecteurs de police rédigés pour l'édification du roi et de Madame de Pompadour. C'était les espions de l'époque. C'est le renseignement général, ou les renseignements généraux, comme vous voulez, nous ont permis de compléter de nombreux témoignages. On a tiré de ces documents de la police secrète quelques compléments inédits sur les spectacles organisés par le prince à son château abbatial de Berny. Berny, vous voyez la Croix de Berny. Hein, oui. On n'est pas loin, donc au sud de Paris. Il organisait des spectacles dans son château, mais aussi dans sa petite maison de la Roquette. Bon, ces deux lieux étaient tout à fait différents. Je dirais un lieu très officiel, avec des pièces de théâtre tout à fait correctes. Et puis, la petite maison, ça a une signification un peu particulière, où les fêtes étaient un peu dans le genre de, que nous proposait le film « Que la fête commence hein, », où les choses étaient assez... donnaient dans la grivoiserie la plus complète. Un manuscrit qui se trouvait à la bibliothèque de l'Arsenal contient un assez grand nombre de rôles détachés d'indications diverses à l'usage des acteurs et actrices. Et on a pu en extraire la composition de la troupe, le tableau, le répertoire, le prologue d'une comédie inconnue du comte de Clermont, en personne. Et donc, ça veut dire aussi qu'il continue à écrire. Et chose plus importante au point de vue littéraire, on nous a même transmis, en quelque sorte, l'analyse de trois scènes entières d'une comédie de Marivaux, La Femme fidèle, composée expressément pour le théâtre de Berny, où elle fut présentée en 1755. C'est-à-dire qu'un grand dramaturge comme Marivaux va composer pour le comte de Clermont, pour les spectacles du comte de Clermont. On connaît le titre, La Femme fidèle. Bon, pourquoi pas. Malheureusement, cette pièce a disparu. Nous allons passer maintenant à un aspect encore tout à fait différent. On a vu le libertin, on a vu le militaire qui avait des qualités. On a vu le futur académicien qui crée une académie avant l'académie, en quelque sorte. Voyons maintenant le franc-maçon. On est en pleine période, évidemment, de la mise en place de la franc-maçonnerie en France. Franc-maçonnerie qui nous vient de nos amis anglais et écossais. Ce n'est pas sans surprise qu'on va retrouver, là aussi, le comte de Clermont. En décembre 1743, après la mort du duc d'Antin, premier grand maître de la franc-maçonnerie, c'est le comte de Clermont qui fut élu par les loges de Paris assemblées. Il fut élu chef suprême de la franc-maçonnerie française. Et c'est à cette époque qu'on peut rapporter l'existence légale et authentique de la Grande Loge de France, qui existe toujours, hein, qui s'intitula Grande Loge anglaise de France, pour montrer effectivement l'origine anglo-saxonne. Mais après un feu de paille, en quelque sorte, le prince de Clermont va abandonner les loges à elles-mêmes. Il a épuisé le sujet déjà, très rapidement. Il néglige les assemblées. Il se débrouille pour nommer un remplaçant qui est de son milieu, un banquier, un certain monsieur Bord, puis un certain monsieur Lacorne. Finalement, il en résulte de grands désordres, une foule d'individus sans mérite sont admis à la Grande Loge, qui devient Grande Loge de France tout court. Après la mort du comte de Clermont en 1771, c'est son cousin, le duc de Chartres, qui est élu à l'unanimité. Cela nous donne une idée également de la façon dont ces formations se sont constituées en France à cette époque. Donc ça ne concerne pas une catégorie sociale anonyme, bien au contraire. On est dans un ensemble d'aristocrates ou de grands banquiers ou de grands bourgeois en général. Mais aucun règlement véritablement appliqué ne permet de garder cette franc-maçonnerie dans les règles qu'elle s'était elle-même d'ailleurs assignée. Alors tout ça coûte beaucoup d'argent. Alors on peut faire un rapide compte. Voilà ce que recevait, ou ce qu'a reçu, le comte de Clermont. En 1737, l'abbaye de Bec-et-Loin valait 55 000 livres. Chaly, 36 000, selon les abbayes. Hein. Cercamps, 30 000. Buzet, 30 000. Saint-Claude, 27 000. Marmoutier, 20 000. Au total, 198 000 livres. Cela ne représentait que le produit régulier des manses, sans compter le casuel, le tour de bâton, enfin d'autres impôts, qui augmentaient sensiblement ce chiffre déjà respectable. Il était millionnaire, hein, si on compare cette somme avec les euros. Tel était le revenu des bénéfices quand il obtient ce qu'il attendait déjà, c'est-à-dire la commande de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, au cœur de Paris, là, qui à elle seule donnait 180 000 livres de rente. 180 000. Alors, ça commence à jaser, comme on dirait de nos jours. Et pour pouvoir conserver Saint-Germain-des-Prés, il va falloir qu'il résigne, c'est-à-dire qu'il abandonne en quelque sorte d'autres abbayes. Ça faisait quand même un peu trop, n'est-ce pas? Donc il abandonne Saint-Claude, Marmoutier, Cercamp et Buzet. Son lot, donc, se réduisant à Saint-Germain-des-Prés, Bec-et-Loin et Chaly, soit environ 270 000 livres. Ajoutons quand même, pour l'avenir, 70 000 livres du gouvernement de Champagne et de Brie, que le roi lui donna en septembre 1751, et nous trouverons que la dotation du prince se montait à 370 000 livres par an, c'est-à-dire environ 7 millions d'euros par an. Ma foi, de quoi subsister dans des conditions correctes. Dernier aspect peut-être pour nous encore, l'armée. Alors évidemment, le sabre et le goupillon, ça ne fait pas bon ménage, tel que j'en parlais la dernière fois. Hein. Et il faudra l'autorisation du pape, qui à l'époque était Clément XII, pour pouvoir intégrer une carrière militaire. Alors il pensait que le comte de Clermont disposait en qualité de colonel propriétaire de deux régiments, le régiment d'Enghien et le régiment Clermont-Prince de cavalerie, que ses talents pouvaient effectivement autoriser une telle compromission, en quelque sorte. Le comte de Clermont entra en campagne pour la première fois à la fin de 1733. Il prépare aux actions de cette guerre de 5 ans, entreprise pour soutenir les droits de Stanislas au trône de Pologne. Stanislas Leszinski, le futur beau-père de Louis XV. Et qui eut pour résultat de réunir définitivement la Lorraine à la France. Il y conquit aisément le grade de lieutenant général, mais nous ne voyons pas qu'il y ait trouvé d'occasion sérieuse de se distinguer. Est-ce vrai? Est-ce une mauvaise langue? Il est difficile de se faire une idée quant aux qualités militaires, au moins pendant cette fameuse guerre de 5 ans. Par contre, entre 1744 et 1747, le comte de Clermont va s'illustrer dans une guerre de siège, car c'était vraiment une des caractéristiques de cette époque. On fait le siège des villes, et c'est ainsi que petit à petit, on conquiert en quelque sorte la région, la seigneurie, la principauté, etc. Et donc, il s'est illustré dans le siège de Menin ou de Ypres, plus connu ultérieurement pendant la guerre 14-18. Un témoin déclare:
on n'avait point vu en France, depuis les cardinaux de La Valette et de Sourdis, d'homme qui réunit la profession des armes à celle de l'Église. Le siège de la ville de Furnes lui fut confié. C'est lui qui a tout fait depuis l'ouverture de cette campagne et qui se présente à tous sans réserve et en brave général. Le journal de Barbier témoigne à des charges. Quand un prince est brave et s'expose lui-même, alors qu'il pourrait s'en dispenser de par sa qualité d'abbé de Saint-Germain-des-Prés, il lui est permis de faire ce qu'il veut à la ville, sans que les petits particuliers qui auraient peur d'une fusée dans les rues ou des femmes qui enragent de voir une fille dans une belle calèche soient en droit d'y trouver un redire.
Voilà, d'une façon très claire, notre journaliste, je ne sais pas si on peut l'appeler déjà comme ça, dit, quand on a les qualités, même si on est un religieux, quand on a les qualités militaires aussi exceptionnelles, eh bien, on n'a pas écouté tous les ragots. Hein. Que ces ragots viennent des femmes qui enragent de voir donc, la fameuse catin de Clermont dans sa belle calèche. Et puis, pour les hommes, eh bien, laissons-les parler, la plupart d'entre eux seraient effrayés de l'explosion d'une fusée dans une rue parisienne. Un peu plus tard, on va le retrouver à la bataille de Fontenoy. On dit, parce que le prince de Clermont n'a pu être à l'armée. Pourquoi? Alors, je vous laisse juger de l'excuse. Ça me rappelle celle de certains jeunes qui disaient « je ne suis pas venu parce que j'avais piscine ou j'avais poney ». On dit que le prince de Clermont n'a pu être à l'armée car il s'est démis la rotule en jouant au volant avec mademoiselle le duc, sa maîtresse. Donc il a fait un mot, en quelque sorte, pour plaisanter, mais c'est un peu ça, faut bien le dire, en disant qu'il ne pourrait pas être à Fontenoy, pourtant illustre bataille, puisqu'il avait un gros bobo. Hein. Par contre, en 1746, il est au siège de Namur, où on dit qu'il fait des merveilles, et puis à la bataille de Rocou, puis enfin celle de Laufède avec le maréchal de Saxe. Il commanda en 1758 l'armée du Rhin, lors de la guerre de 7 ans, donc entre 56 et 63, c'est le moment où l'Angleterre et la Prusse s'allient contre la France, l'Autriche et la Russie, ainsi que la Saxe et la Suède. Il y fut particulièrement malheureux lors de la défaite, la plus importante, hélas, pour la couronne de France, c'est la défaite de Krefeld en 1758 face aux troupes hanovriennes commandées par Ferdinand de Brunswick-Lunenbourg, frère du duc de Brunswick. C'est alors qu'il est relevé de son commandement. Est-il véritablement responsable de cette bataille? Je ne suis pas compétent pour juger, évidemment, de l'art militaire du comte de Clermont. En tous les cas, la postérité a retenu qu'il n'a pas été capable, évidemment, de mener bataille et donc d'éviter cette funeste, pour la couronne de France, défaite de Krefeld.
Pour Jules Cousin, c'est une curieuse figure que celle de cet arrière-petit-fils du grand Condé. Moitié Plumet, moitié Rabat. Renté de biens de l'Église et défait d'apanage, gaspillant effrontément avec des filles de l'opéra, 30 000 livres de biens ecclésiastiques, mais en somme, et malgré ses peccadilles, le seul prince de sa maison chez lequel on retrouve encore à cette époque quelques traces de son illustre aïeul. La bassesse du duc de Bourbon, la brutalité du comte de Charolais, ses frères, font ressortir plus vivement encore les qualités relatives du comte de Clermont, spirituel, affable, libéral, brave sur les champs de bataille, magnifique dans les plaisirs, aimant et encourageant les lettres qu'il cultivait en prince, c'est-à-dire avec plus de zèle que de succès. Mais plein de bienveillance pour ses confrères et toujours prêt à les apitoyer de sa fortune ou de son crédit.
Oui, vous voyez, il y a à charge et à décharge. Ce curieux personnage, donc, qui est à Chaly, va se comporter d'une façon un peu légère avec Chaly. On va voir que s'il fait reconstruire, après les difficultés d'approvisionnement en eau potable dont on a parlé, s'il fait reconstruire complètement les bâtiments abbatiaux, en gros, il fait tout abattre. Hein. Il n'y a pas de monument historique à l'époque. Hein. Donc, on va garder simplement le petit château, l'ancien bâtiment des convers au Moyen-Âge, et on va garder l'église abbatiale. Bien sûr, la chapelle Sainte-Marie. Chapelle Sainte-Marie qui sera protégée d'ailleurs aussi pendant la Révolution, ou après la Révolution. Alors, pourquoi? C'est un peu curieux, mais bon. Moi, j'ai une petite idée. Je pense que les fresques de Primatis qu'elle présente sont sûrement une des raisons pour lesquelles on a pris avec beaucoup de respect cette décoration tout à fait extraordinaire d'un peintre de la Renaissance italienne. Peut-être, donc, est-ce Primatis qui a protégé la chapelle Sainte-Marie. Donc, on va voir une espèce de grand mouvement et on rase tous les bâtiments médiévaux pour des nouvelles constructions. Mais il ne faut pas croire pour autant que on s'attache à favoriser la communauté religieuse en lui offrant de nouveaux locaux, en quelque sorte. Non, ces nouveaux locaux sont, en quelque sorte, les futures maisons de plaisance qui permettront aux propriétaires de venir à la campagne, au bois pour la chasse, entre autres. Au XVIIIe, pendant les ravages de la commande, ont entraîné la paupérisation des monastères. Et on peut dire que cette commande a accéléré la déliquescence de la vie monastique, tant sur la façon de se comporter les moines que sur le nombre de moines qui ne cesse de diminuer. De nouvelles congrégations quand même apparaissent, comme celle de Saint-Maur. Des abbayes que nous connaissons, Noyon, Compiègne, Beauvais, se joignent à cette réforme. Et si je parle de la congrégation de Saint-Maur, c'est parce que leurs travaux intellectuels et surtout historiques vont être essentiels, même encore pour nous maintenant. L'érudition des moristes, Saint-Maur, moriste, vous comprenez donc la relation, l'érudition des Maurices, la précision de leurs travaux et leur analyse critique vont produire des milliers de volumes qui forment encore des matériaux indispensables à la recherche en histoire. Si nous connaissons les tombeaux de Chaly, c'est grâce à ces Maurices qui ont fait des relevés extrêmement précis de ces tombeaux. Autrement dit, il y avait déjà des gardiens du patrimoine au moment où on met par terre les bâtiments au milieu du XVIIIe siècle. Alors, on a parmi eux un certain abbé Leboeuf, chanoine d'Auxerre, qui se rend souvent à Chaly, qui, à cette époque, avait gardé encore sa renommée intellectuelle. Elle possédait une riche bibliothèque et de nombreux manuscrits. Et les Mauristes, eux, procédaient à chaque fois, dans chaque abbaye, à un inventaire des bibliothèques en déshérence. Et c'est grâce à l'un d'entre eux, donc je venais d'en parler, un certain Roger de Guénières, que nous connaissons mieux les illustres tombeaux de l'abbatiale. Alors, bien sûr, il y a des documents incontournables, la lettre de Jean de Montreuil, relatée par Don Martin, etc. Quoi qu'il en soit, leurs travaux les placent au plus haut rang des protecteurs du patrimoine, car quelques décennies plus tard, comme vous le savez, commençait la destruction des abbayes et des bâtiments épiscopaux médiévaux pour les remplacer par des bâtiments plus ordonnés, plus pratiques, plus à la mode. L'art gothique n'intéressait plus personne, ou presque. Et peut-être serez-vous surpris de savoir que des classiques comme Molière, Boileau, La Fontaine ou même Fénelon se désintéressaient complètement de cet art de barbare, de cet art gothique, barbare, go, vous voyez la relation entre les deux, de cet art barbare. Et c'est ainsi, dans une certaine indifférence, que disparurent les édifices médiévaux des évêchés de Verdun, de Lyon, de Langres, de Strasbourg, mais aussi des abbayes complètes. Hein. Je pense à l'abbaye de Prémontré, à l'abbaye de Clairvaux, en grande partie démolie, de Cluny, de Saint-Denis, de Saint-Vaast, et je pourrais continuer la liste, de Saint-Étienne, et plus près de nous, de Saint-Vincent de Senlis, hein, dont on ne connaît plus maintenant, en dehors des bâtiments liés à la liturgie, que les reconstructions du XVIIIe. Disparaît également en grande partie les bâtiments de Longpont, hein, sur la route entre Nanteuil et Villers-Cotterêts, et Chaly va subir le même sens. Alors, il ne faut pas croire que tout le monde est d'accord, quand même. Et dans certains reportages, on dirait de nos jours, des hommes se disaient choqués.
Il saute aux yeux que les édifices du XIIe et du XIIIe siècle sont ravissants par leur délicatesse, tandis que ceux que l'on élève depuis 50 ou 60 ans, en fait de cloîtres et de réfectoires, sont massifs et grossiers.
Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Mercure de France. Là, c'est écrit en septembre 1738. Il s'élevait donc des voix, vous voyez, pour défendre ces monuments qui sont mis à bas. On criait même parfois au sacrilège. Hein. Et on disait en gros, ce que la Renaissance avait déjà commencé à déconstruire, eh bien, on continue à le faire au XVIIIe. Et c'est vrai que la Renaissance, en partie, est responsable, évidemment, de l'abandon de cette culture qu'on pourrait rapidement appeler la culture médiévale gothique, au profit de cette architecture dite classique, qui essayait de ressembler à l'art de l'Antiquité gréco-romaine. Ceci dit, il ne faut pas oublier que l'état dans les bâtiments abbatiaux était souvent tout à fait dégradé. On pourrait revenir sur tous ces travaux, mais cela risque de rendre un petit peu mon discours fastidieux. Par la suite, donc, l'église est reconstruite, pour faire cela très court, en partie. J'ai dit qu'elle était conservée, mais seulement en partie. On va refaire le sol, on va refaire une grande partie des chapelles, les chapelles du transept comme les chapelles latérales. On va instaurer un nouveau mobilier, un énorme hôtel tombeau. Vous le connaissez, cet hôtel tombeau, puisqu'il est actuellement dans la cathédrale de Senlis. On va établir des stalles, des pures merveilles, gravées en partie par les frères Slotz, mais Slotz, c'est Versailles. Ce sont les plus grands ébénistes, comme on dirait de nos jours, de cette période. Et vous les connaissez, ou pouvez les connaître. Allez donc dans l'église de Baron, entre Nanteuil et Senlis. Faites-vous ouvrir la clé, elle est à la mairie. Et vous verrez ces magnifiques stalles qui entouraient le cœur de l'église abbatiale avec ces sculptures des évangélistes qui sont des purs chefs-d'œuvre. Et il faut absolument, évidemment, que tout cela soit conservé avec le plus grand respect, tant leur qualité historique et artistique est grande.
C'était « Si Chalim était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chalis.